Bienvenue dans le podcast La Voix des mots. Je suis Maouna Vigan, alias Maouna Poésie. J'écris et lis depuis que j'ai 6 ans. Fin 2020, sur un coup de tête, j'éditais seule mon premier livre intitulé « Au-delà de nos mots ». Le début d'une grande et folle aventure. Depuis, je construis ma vie d'autrice petit à petit et je partage mes découvertes dans les mondes de l'édition et de l'auto-édition. Cette année, je fais partie des lectrices de la maison d'édition Le Duc. Je te propose donc de suivre également cette aventure. Tu découvriras aussi mes échanges avec des écrivains ou avec des professionnels de l'édition ou de l'auto-édition pour t'aider toi aussi à construire un projet d'écriture qui te ressemble. Pour soutenir ce podcast, laisse une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu as des questions, envoie-moi un message sur Instagram ou par mail. Merci à toi pour ton temps et bonne écoute. Bonjour Fantin.
Bonjour Maouna.
Merci d'être là aujourd'hui et d'avoir pris le temps dans ton agenda pour qu'on puisse faire ce petit échange.
Eh bien, merci à toi de m'accueillir et merci à ceux qui vont nous écouter.
Je t'invite à t'installer. J'espère que tu as pris un verre d'eau de quelque chose à côté.
Absolument.
Parfait. On va commencer. Alors, première question. Comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas si tu étais dans une soirée avec que des inconnus? Qu'est-ce que tu leur dirais sur toi?
Qu'est-ce que je leur dirais? Déjà, je crois que, aussi bizarre que ça puisse paraître, je ne leur dirais pas que j'écris, ou pas directement. Parce que j'imagine que derrière ta question, il y a cet aspect de comment je me décrirais en tant qu'auteur. Et voilà, en fait, je dis rarement que j'écris. Parce que dire à quelqu'un que j'écris, ça serait bien trop intime pour moi. Ça serait... Autant arriver devant lui et retirer mes vêtements, pour moi, ça serait quasiment la même chose. Donc, pour répondre à ta question, je me contenterai de quelque chose de classique. Enchanté, Fantin Martinet, 20 ans, étudiant en droit.
Je comprends. Je connais un peu ça aussi quand on me demande ce que je fais dans la vie. Je dis que je suis en marketing digital et je dis, et puis j'ai une autre vie à côté. Et tu sens le...
Il y a toujours cette pudeur.
C'est ça. Donc, en fonction de l'endroit où je suis, parfois, je réinvente cette vie en disant que ça occupe beaucoup mes nuits. Donc, tu sens après l'interrogation dans le regard des gens.
Je te comprends.
Mais ouais, le rapport à l'écriture est pas évident. Comment, toi, ça t'est venu, d'ailleurs, tu as commencé à écrire jeune, c'est venu comment?
Alors, j'ai commencé... en fait, dès que j'ai su manier un stylo, globalement, j'ai écrit. Et je me rappelle que quand j'étais petit, je devais avoir 8 ou 9 ans, j'avais écrit un livre, une sorte de court roman qui racontait la vie d'un enfant de mon âge, il me semble, si mes souvenirs sont bons, qui découvrait un peu la vie, ses saveurs et ses plaisirs simples. Et j'avais fait une petite mise en page moi-même. Je l'avais imprimé avec l'imprimante de mon père et je l'avais vendu à mes voisins. Et en fait, depuis ça, c'est vraiment l'élément le plus vieux dont je me souvienne. Et depuis ça, l'écriture fait vraiment partie de ma vie. Et cette espèce d'osmose, si je peux dire, que j'entretiens avec la poésie, c'est vraiment accentué quand j'avais... C'était à la moitié de mon collège, quand j'avais 12-13 ans, quelque chose comme ça.
Ok. Ce que je retiens surtout, c'est que tu avais déjà la notion pécuniaire, parce que tu as vendu ton histoire.
Alors oui, mais j'ai jamais fait ça pour ça, en tout cas.
Mais tu fais bien, parce que la vie d'artiste et la vie d'auteur, on sait que ça ne paye pas les factures, donc tu avais raison d'anticiper et prendre de l'avance. Parce que clairement, ouais, c'est pas le métier qui le met le plus de beurre dans les épinards.
Non, ça c'est sûr.
Mais donc, tu avais commencé en écrivant une petite histoire donc quand tu étais plus jeune. Et, voilà. Est-ce que tu as continué en écrivant des romans, des histoires, des nouvelles comme ça, ou ça s'est un peu diversifié?
J'avais commencé un roman qui est toujours quelque part dans un dossier de mon ordinateur. Ça fait quelques temps que je me dis qu'il faudrait que je le reprenne, parce que j'aimais bien l'intrigue. Et j'avais développé un personnage auquel je m'étais vraiment attaché. Mais je sais pas trop pourquoi, j'avais laissé tomber. Mais du coup, j'aimerais bien reprendre ça. Et donc, en termes de roman, c'est tout ce que j'ai... Enfin, j'ai écrit qu'un début, un bon début. Et sinon, non, ça a toujours été de la poésie, toujours de la poésie.
Ok. Il faut savoir, c'est peut-être un best-seller que tu as au fond de ton placard.
Peut-être, peut-être.
À un moment ou à un autre, il faudra lui donner la possibilité de vivre. C'est ce que
oui, il faudra que je le finisse un jour, oui.
Ouais, on ne sait jamais, sur un malentendu, sur un coup de tête d'une maison d'édition ou sur une envie de nouveauté, tu ne sais pas.
Exactement, il faudrait que je saute le pas.
Et la poésie, donc tu en as toujours écrit, est-ce que tu en lisais aussi plus jeune, à part bien sûr ce qu'on a pu avoir à l'école avec Baudelaire, Verlaine, etc., Flaubert et compagnie, est-ce que tu en lisais aussi en dehors de ça ou pas du tout?
Alors la poésie, tu fais bien d'en parler, parce que la poésie, la manière dont on l'abordait à l'école ne m'a jamais... Avant d'écrire finalement, j'étais pas tellement attaché à la poésie, parce que je trouve que la manière dont... Après, ça dépend aussi des profs, mais la manière dont on me l'a enseigné, ça ne m'avait pas du tout attiré. Et c'est quand j'ai commencé à en écrire, finalement, que je me suis vraiment mis à en lire. Et maintenant, j'en lis énormément. Et voilà. Mais avant d'écrire, finalement, j'en lisais pas beaucoup, à part ce qu'on nous donnait en cours. Et après, j'ai appris à découvrir. Et c'est en écrivant que j'en ai lu.
D'accord. Je crois qu'on est beaucoup un peu comme ça aussi, à ne pas être tombé résolument dedans à la découverte de Verlaine et compagnie.
Je crois aussi.
Et de s'être fait une opinion un peu à part. Après, j'ai vu de temps en temps quand même sur Instagram ou sur TikTok des personnes qui sont toujours de faire friands, sympathisants de la poésie classique et qui l'adorent et qui la revendiquent.
Après, moi, aujourd'hui, la poésie classique, je l'aime vraiment bien. Hein. Je lis beaucoup de Éluard, j'aime bien Les Fleurs du Mal de Baudelaire, mais c'est que maintenant j'ai une approche totalement différente que celle qu'on m'avait appris à avoir.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'on le comprend aussi mieux, peut-être, certains textes, maintenant qu'on a une certaine maturité.
Oui, et c'est certain.
On voit ce qu'il y a dehors. Enfin, moi, à part Baudelaire qui m'avait tapé dans l'œil, les autres. Je trouvais ça sympa, mais sans plus. Et on peut d'ailleurs se demander pourquoi c'est Baudelaire qui m'a tapé dans l'œil, mais c'est clair que...
En plus, ouais. C'est pas le plus simple. Hein.
Non, mais c'était le plus dramatique. Ça devait être un côté gothique.
C'est sûr.
Artiste renfermé qui a trouvé un écho dans l'Albatros et tous les autres. Mais... ouais, c'est clair que c'est pas ce qu'on apprécie le plus. Est-ce que par la suite, tu grandissais, plus tu en écrivais, est-ce que tu as commencé à lire d'autres auteurs un peu plus contemporains ou pas forcément
C'est quand j'ai commencé à arriver sur Instagram que j'ai vraiment découvert la poésie contemporaine. Donc c'était il y a peut-être 2-3 ans. Et au départ, j'étais assez... je sais pas, ça m'emballait pas. J'ai découvert alors c'est pas tellement contemporain, enfin si, j'ai découvert déjà Christian Bobin, mais c'est pas la poésie contemporaine telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais c'est vraiment un auteur récent que j'avais découvert en premier. Et après sur Instagram j'ai découvert tout ce qui est Lucas Clavel, Paul Lanton, tout ça, je suis vraiment tombé amoureux de leur style. Lucas Clavel, j'adore vraiment ce qu'il fait. Et voilà, et c'est comme ça que je me suis mis à la poésie contemporaine. Et puis après, à tous les autres poètes et toutes les autres poétesses qu'on trouve sur Instagram qui font des trucs incroyables, comme toi, comme Pauline Bilizari, Tosca Nouri, tout ça.
Ouais, une petite communauté qui commence un peu à grossir, mine de rien.
Ouais.
Est-ce que, de quoi tu t'inspires pour écrire? Parce que j'ai vu que tu étais née à Nouméa.
Oui.
Je ne sais pas combien de temps tu y as vécu, si c'est quelque chose qui t'inspire, parce que je sais que certains écrivains, le moment passé en enfance a une incidence parfois sur ce qu'ils vont écrire, en dehors même de la poésie contemporaine ou de la poésie tout court d'ailleurs, quel que soit le style littéraire, souvent ça vient créer un imaginaire ou développer certaines émotions ou créer une certaine nostalgie. Je ne sais pas si toi, dans ton cas, ton passage à Nouméa se retranscrit dans tes textes ou pas du tout.
Alors, d'une certaine manière, oui et non. En fait, j'y suis parti très très jeune, j'y suis parti quand j'avais 2 ans, donc, et j'y suis jamais retourné depuis, donc de toute évidence, j'en ai absolument aucun souvenir. Mais je sens que j'en ai gardé un héritage, puisque j'ai une image bien construite de Nouméa, qui est peut-être totalement fausse, mais je vois vraiment Nouméa comme, comme un lieu de liberté et de paix. Alors, je sais pas pourquoi, j'imagine que je garde ce souvenir de parce que j'ai entendu de mes parents ou de mes frères qui, eux, y ont vécu plus longtemps que moi déjà, mais qui aussi peuvent s'en souvenir. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette sensation. Et au-delà de ça, j'ai vraiment un besoin viscéral d'y retourner. Il y a quelque chose de très frustrant à ne pas connaître où on est né. J'ai envie, en fait, de découvrir les odeurs de la Nouvelle-Calédonie, ses couleurs, son eau turquoise, tout ça. Voilà, c'est compliqué un peu de savoir, pour reprendre la phrase, c'est un peu compliqué de savoir où on va quand on ne sait pas d'où l'on vient. Donc c'est une certitude qu'un jour, j'y retournerai. J'en ai juste pas eu l'occasion. Et c'est aussi une certitude que, d'une certaine manière, je pense que ça influence mes textes. D'ailleurs, dans mon premier recueil, j'avais écrit un poème qui s'appelait Nouvelle-Calédonie, et où j'en parlais, alors qu'au final, je la connais pas vraiment.
Ouais. Non, je te rejoins sur ça et sur le fait de savoir un peu d'où on vient. Moi, j'ai pas remis les pieds en Afrique depuis plus de 20 ans. Et clairement, même si j'y suis partie plus tard que toi, enfin, un peu de choses près, tu me diras quand même, 4 ans, c'est pas si éloigné que ça. Je comprends cette envie de revenir mettre les pieds un peu là où
on a grandi. Sources.
C'est ça. Et puis, ça peut être aussi générateur d'une certaine forme de créativité d'idées.
Oui, enfin, absolument.
Pas pour toi, mais ouais, je me dis, je sais que je vais y retourner là, enfin, après 20 ans, dans quelques mois, et j'ai bien intention d'y aller avec un petit carnet ou en tout cas de quoi écrire. Mm-hmm. Je me dis qu'il y a une différence entre ce qu'on a aperçu, ce qu'on nous en a dit, comment est-ce que le monde aussi le voit, parce que bon, tu vois, moi, quand j'ai vu que tu venais de Nouméa, j'ai pensé effectivement île paradisiaque, vacances, etc. Mais les gens qui y vivent ne perçoivent pas les choses de la même manière. Non. Ils ont un quotidien différent, une vie différente, des problématiques différentes. Et en tant qu'écrivain, je me dis qu'être aussi témoin de ça, ça peut générer des choses en nous, une forme
oui,
de créativité.
Oui, c'est sûr. Ah, ça sera... Ton voyage sera sans doute très inspirant, oui.
Et toi, tu comptes y retourner
Alors, c'est pas prévu, mais j'ai le besoin d'y retourner. Je suis persuadé qu'un jour, j'y retournerai. Je ne sais pas quand, mais je le ferai, c'est certain. Ouais.
C'est tout ce que je te souhaite. Je sais aussi que tu as commencé à écrire, enfin, en tout cas, que le premier support vers lequel tu t'es tourné, si je dis pas de bêtises, c'était Wattpad.
Oui, 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 oui.
Pourquoi ce choix? T'as pas eu Skyblog comme tout le monde?
Mais moi, j'étais un peu trop jeune, je crois, ouais, pour Skyblog. Non, alors Wattpad, alors déjà, au départ, j'avais pas tellement la volonté de partage de mes textes. C'était pas tellement pour ça que j'ai posté sur Wattpad. C'était d'abord pour finalement avoir un lieu pour stocker mes textes et pouvoir les retrouver, les stocker, quoi.
Ouais.
Et parce qu'en fait, quand j'écrivais là, très jeune, à mes 12-13 ans, quand je commençais, et c'est là que j'ai commencé sur Wattpad, j'avais pas envie que mes parents, par pudeur sans doute, tombent sur mes poèmes que j'écrivais sur papier. Donc je l'ai dématérialisé, entre guillemets, sur Wattpad. Et donc il y a des gens qui ont commencé à me lire. Au début, ça me faisait très peur de voir que des gens étaient tombés sur mon compte et lisaient ce que j'écrivais. Et après, j'ai eu les premiers commentaires qui étaient très encourageants, des bons retours. Et ça m'a donné envie de continuer, ça m'a encouragé. Et voir que des gens pouvaient se reconnaître, que ça pouvait les aider, etc. C'était encourageant. Et donc, j'ai continué à poster sur cette plateforme.
D'accord. Est-ce que tu as pu, à partir de ça, te créer aussi une communauté via Instagram? Comment s'est fait la bascule?
Alors, j'ai mis du temps quand même à arriver sur Instagram. J'étais sur Wattpad. Et c'est grâce à Wattpad que j'ai pu publier mon premier livre en maison d'édition, dans une maison d'édition nîmoise. Parce que beaucoup de gens m'avaient encouragé finalement à envoyer mes poèmes à une maison d'édition, chose que j'avais fait du coup. Et une maison du coup, donc Nombre 7 à Nîmes m'avait accepté. Et c'est à partir de là que j'ai commencé Instagram. Je me suis dit pour la promo de mon livre qu'il faudrait un réseau social qui fasse plus réseau social finalement que Wattpad.
Ouais.
Donc bien sûr, j'ai fait un peu de communication sur Wattpad, mais après j'ai basculé sur Instagram et finalement aujourd'hui je suis plus du tout sur Wattpad, hein, j'ai complètement arrêté, je fais tout sur Instagram et voilà.
Ok. Et ça se passe bien?
Sur Instagram?
Ouais.
Très bien. Ça, mon compte, bon là on stagne un peu, mais ça a fleuri pas mal les 6 derniers mois. Enfin même toute l'année 2022, je suis content. Ça, il y a pas mal de gens qui m'ont rejoint. Et voilà.
Donc si je dis pas de bêtises et si je comprends bien, en fait, tu n'as pas fait d'auto-édition.
Non, non, non.
Ok, autant pour moi. J'étais persuadée que le premier était en auto-édition, mais pas du tout.
Non, non.
Et ça s'est passé comment, du coup, cette aventure avec la maison d'édition ?
Alors, tous mes textes Wattpad, je les ai transférés dans un Word, je les ai agencés, Non, j'ai pas de partie dans mon livre, mais j'avais trouvé un ordre chronologique, quelque chose d'un peu cohérent. Et j'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition, alors uniquement des petites maisons d'édition, parce que déjà, j'y croyais absolument pas. Moi, je l'ai fait parce que beaucoup de gens m'ont encouragé et croyaient en moi beaucoup plus que je croyais en moi.
Ouais.
Donc, je l'ai quand même fait. Plusieurs maisons m'ont répondu, dont Nombre 7, que j'ai choisi parce que... Ils étaient très humains. Dès le départ, ils m'ont téléphoné, on a discuté. Donc c'est pour ça que je les ai choisis. C'est pas une très grande maison, mais elle est à taille humaine et ils m'ont permis de mettre mon livre sur papier, de le placer en librairie. Donc c'était très bien comme ça.
Et la relation avec la maison d'édition, comment ça s'est passé? Parce que je sais plus quand est-ce que c'était. Ah si, parce que pendant cette semaine, il y avait le séminaire femmes et écrivaines qui est tenu par une autre écrivaine que j'aime beaucoup. Et il y avait une intervenante qui disait typiquement qu'elle, en ayant travaillé avec sa maison d'édition, elle en était un peu déçue parce que pas le choix de la couverture, parce que au niveau de la promotion, de la communication, elle trouvait qu'il n'y avait pas eu assez de choses faites et elle se plaignait d'être un peu écartée de la presse et de ne pas pouvoir entrer en relation avec eux. Toi, ton expérience à toi avec cette première maison d'édition, elle était plutôt meilleure ou...
Alors, je m'attendais absolument à rien, donc j'ai pas pu être déçu finalement.
Ouais.
Mais moi, j'étais déjà content d'avoir mon livre en papier. Du point de vue de... Alors, c'est sûr que j'ai... Ceci, sur la couverture, j'ai eu... Alors, il y a toujours une ligne directrice, une façon de faire la couverture dans chaque... Mais voilà, une trame, chercher le mot. Donc ça, j'avais pas le choix de m'y plier. Mais j'ai quand même pu choisir la photo. Tout ce qui est quatrième de couverture, je l'ai rédigé aussi. Donc ça, j'étais quand même assez libre. Et de toute façon, je savais que j'allais pas avoir mon mot à dire sur tout. Mais je le savais en allant en maison d'édition. Et c'est là que l'auto-édition est vraiment un avantage parce que tu es entièrement libre sur ce que tu fais. Et pour la communication, j'ai été distribué sur tout ce qui est Amazon, Fnac, Cultura. Mais comme c'est une petite maison, c'est vrai que la présence en librairie était assez faible. J'étais dans peut-être 5 librairies dans toute la France.
Ouais.
Mais je m'y attendais parce que c'était pas une grande maison et je leur en veux pas. Enfin, j'étais pas déçu et ils ont fait quand même de la communication. Hein,
ouais.
Mais à leur échelle.
C'est vrai que ça dépend aussi de quelle maison d'édition on choisit en fonction de ce qui est fait. Et puis parfois, enfin, je me trompe peut-être parce que je n'ai jamais encore été édité, mais bon. Ce que j'ai pu entendre, que ce soit de la part d'autres auteurs dans la presse ou autre, parfois c'est pas le tout d'être dans une grande maison d'édition, ça ne suffit pas à avoir une campagne non plus promotionnelle importante. Donc au final, quelle que soit la maison d'édition, j'ai l'impression en tout cas qu'aujourd'hui il y a quand même une grosse part de travail qui doit être faite par l'auteur ou l'autrice.
Ah oui, ça c'est oui, de plus en plus, je crois.
Donc attendre que ça se passe.
Non, c'est pas la bonne technique.
Non, non, non. C'était un monde qui ne... Je vais pas dire qu'il ne m'intéressait pas, mais bon, dans lequel je me projetais dans 60-70 ans, mais j'ai le sentiment aujourd'hui que si on n'a pas de communauté sur un réseau social, quel qu'il soit, assez forte, ou si on n'a pas peut-être aussi une sorte de positionnement ou un style ou une écriture qui soit un peu, je vais peut-être pas dire dans l'air du temps, mais qui soit particulière, on a moins de chances d'attirer quand même une maison d'édition. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
Oui, c'est certain. Moi, c'est depuis, grâce à... Enfin, c'est grâce à mon compte qui a pas mal évolué ces derniers temps que j'ai été repéré pour mon deuxième livre. Et je sais que si j'avais pas eu autant, enfin si je m'étais pas fait autant connaître, jamais jamais j'aurais pu signer un contrat comme ça.
Ouais. Alors j'ai deux questions forcément qui viennent à l'écoute de ce que tu viens de dire. Qu'as-tu fait déjà pour te faire connaître, puisque tu disais que c'était l'année 2022 en particulier qui a fait fleurir ta communauté. Est-ce que tu as mis des choses en place en particulier? Qu'est-ce que tu as noté ou fait?
Alors c'est une bonne question. j'ai pas par rapport à 2021 ou même 2020, je sais plus exactement. Je crois que c'est début 2020 que j'ai dû arriver sur Instagram, peut-être même un peu avant. Non, 2019. Je suis arrivé en juin 2019 à la sortie de mon premier livre. Est-ce que j'ai fait des choses en plus? Je ne crois pas. J'ai juste été moi-même. J'ai peut-être posté plus régulièrement, mais j'ai été dans. Si je sais ce que j'ai changé, j'ai changé ma manière. Pas ma manière d'écrire, mais ce que je postais sur Instagram, parce que avant je postais des textes assez longs, ce que je ne fais plus du tout. C'est toujours des. Parfois c'est même une seule phrase, ou en tout cas c'est des textes très courts. Et en fait, c'est ce format-là qu'il faut adopter pour Instagram, parce que dès que le texte est un peu trop long, les gens ne lisent pas en fait.
Ouais.
Donc je pense que c'est ça qui a aussi pas mal contribué à faire connaître mon compte.
Ok. Donc si tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui se plaignent de l'algorithme, comptez les textes courts.
ça serait ça. Et ça serait d'être actif, de faire des stories, d'échanger avec ses abonnés, répondre aux commentaires. Voilà. Mais c'est vrai que l'algorithme, et je pense que tu le sais, et les auteurs qui nous écouteront aussi, pour nous les auteurs et les artistes en règle générale, l'algorithme est assez méchant.
Ouais. Il est un peu ingrat, mais... Mais on fait avec. Deuxième question au regard de ce que tu disais tout à l'heure. Donc, tu as un deuxième livre qui va sortir. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as été repéré par cette seconde maison d'édition? Qui est-ce que c'est? Si tu peux déjà le communiquer ou pas. Et puis, où tu en es dans cette aventure?
Alors, j'ai été repéré par une directrice éditoriale. J'avais vu qu'elle me suivait, qu'elle suivait mon compte et ce que je faisais. Et un jour, je reçois un message et elle me dit qu'elle aime ce que je fais et qu'elle aimerait me publier dans sa collection de poésie. Ensuite, on s'est rencontrés sur Paris, je suis allé la voir, on a bien discuté, le courant est passé et quelques mois après, elle m'a envoyé mon contrat que j'ai donc signé. Et voilà, alors à l'heure actuelle, c'est... Je vais pas le dire le nom de la maison parce que c'est un peu compliqué en ce moment. Y a pas mal de polémiques autour et sans doute que certains comprendront de quoi je parle quand certains des auditeurs comprendront parce que ça fait beaucoup parler, notamment sur Instagram. Mais donc voilà, à l'heure actuelle... Je peux pas exactement dire où ça en est, mais ça ne dépend pas de moi. Mais dès que ça sera débloqué, dès que ça avancera, de toute façon, j'en informerai ceux qui me suivent.
Ouais.
Et voilà.
Ça marche. On attend.
Pas de pression.
Et comment tu fais aujourd'hui pour continuer à écrire? Est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu as déjà participé à des ateliers d'écriture ou toute autre forme d'activité vouée à stimuler un peu ta créativité?
J'ai jamais fait d'atelier d'écriture, j'aimerais bien en faire. Donc je pense un jour où j'en aurai l'occasion, je le ferai. Sinon, pour stimuler ma créativité, j'ai pas tellement de recettes miracles ou de choses comme ça. J'aime bien la nature, c'est que j'ai du mal à écrire quand il y a non j'allais dire quand j'ai trop de choses qui m'entourent, mais c'est faux en fait, parce que justement dans la nature, c'est ce que j'aime, d'avoir beaucoup de sensations, beaucoup avec les odeurs, les bruits.
Ouais, mais être entouré dans la nature, c'est pas la même chose que d'être entouré chez soi ou dans un bus ou dans un café. Donc,
oui, oui. Ah bah ça, alors moi, écrire dans un bus ou un café ou quelque chose comme ça, c'est absolument impossible pour moi. J'y arrive pas quand il y a des gens autour. Je n'arrive pas à... J'ai besoin de ma bulle, j'ai besoin d'être tout seul, d'être... voilà, l'écriture, ça a vraiment, pour moi, ce côté très, très, très solitaire. Et c'est ça qui est assez magique, c'est que c'est comme la lecture, on est tout seul, tout en se sentant accompagné, en fait. Et c'est aussi ça que j'aime. Mais du coup, j'ai besoin d'écrire seul.
Ouais. Ok. Est-ce que tu as déjà eu des moments de... J'allais dire de découragement, c'est peut-être pas le bon terme, mais des moments où, en tout cas, ça ne venait plus, ça ne venait pas, où l'envie n'y était plus. Et si oui, qu'est-ce que tu as fait pour te réconcilier avec l'écriture ?
La question tombe très bien, parce que je commence à sortir, je crois, de plusieurs mois sans écrire, ou en tout cas en écrivant assez peu. Depuis novembre à peu près, j'avais rien écrit. Et là, j'ai réussi à m'y remettre. Ce que je fais, c'est que je lis beaucoup, beaucoup de poésie. J'ai racheté pas mal de livres, que ce soit du classique ou du contemporain, et je lis beaucoup, et ça relance un peu la machine, entre guillemets, et voilà.
D'accord, c'est bon à savoir. Pareil, aux auditeurs qui nous écoutent, s'il y en a parmi vous qui sont bloqués, lisez.
Voilà. Ou aussi, ah oui, je fais ça aussi de temps en temps, j'aime beaucoup, je regarde des interviews d'écrivains. Alors notamment, j'aime beaucoup écouter, j'en parlais tout à l'heure, j'aime beaucoup écouter Christian Bobin sur il a fait pas mal de passages sur la grande librairie, et on a plein d'extraits sur YouTube, et c'est vraiment un plaisir à écouter.
D'accord. Qu'est-ce qui t'a... C'est la voix, c'est ce qu'il dit, c'est le personnage qui t'inspire, ou...
C'est tout. C'est il a une façon de parler déjà qui nous capture, finalement. Et la profondeur de ce qu'il dit est vraiment... moi, à chaque fois, je suis fixé sur ma chaise. Il parle comme il écrit, avec la même profondeur. Et c'est ça qui est beau, et que je trouve vraiment admirable.
Comme quoi, il y a toujours encore des personnalités qui peuvent nous inspirer. Donc ça,
c'est tant aussi, mieux.
C'est aussi bon à savoir. Mais est-ce que tu as d'autres écrivains qui t'inspirent en dehors de ceux qui écrivent de la poésie ?
En roman, et qui est contemporain, j'aime beaucoup Alexandre Jardin. Il avait rédigé la préface de mon premier livre, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Après, ça s'éloigne pas tant de la poésie, parce que je trouve que ce qu'il fait est vraiment... il a écrit un livre que j'encourage tout le monde à lire, c'est La Plus Que Vraie. C'est une histoire d'amour absolument incroyable. Je pense que c'est un des romans que j'ai préféré, et c'est absolument fou, c'est complètement fou, ça va dans tous les sens, il faut avoir un grain de folie pour le lire, mais je pense que tout lecteur a ce petit grain de folie, et vraiment c'est un livre que j'adore, et l'auteur Alexandre Jardin, j'aime beaucoup aussi, j'aime tous ses livres. Et...
un vrai fan.
Voilà.
Qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'écriture ?
Qu'est-ce que j'aime le plus ? C'est compliqué comme question, parce que c'est jamais par choix qu'on écrit de la poésie, hein, je trouve. C'est plus par contrainte. Enfin, c'est par contrainte que j'écris. Et c'est compliqué d'exprimer, de tendre vers une valeur affective à ces choses qui s'opposent aussi violemment à nous. Comme pour toutes les choses qu'on aime, en fait. Pourquoi on trouve une fleur jolie ? Ça a pas vraiment de réponse comme question, et c'est compliqué de dire pourquoi on aime quelque chose. Bon, c'est pas impossible, mais c'est compliqué. Mais si je devais essayer de te faire une réponse, je dirais que j'aime cette façon surtout de faire ressortir la beauté de la moindre chose. Baudelaire disait un truc très joli, pétrir de la boue pour en faire de l'or. Et je rejoins parfaitement ça, et c'est ce que j'aime. Et d'ailleurs, Baudelaire, y a un poème qui illustre parfaitement sa phrase. C'est une charogne. J'invite les auditeurs à aller lire ce poème.
Ah, il était sale, celui-là, quand même. Hein.
Oui, il parle d'une charogne, donc c'est absolument répugnant. Mais il en parle tellement bien que c'est magnifique. Il en vient à la comparer à une... âme, si mes souvenirs sont bons. Et c'est absolument splendide, aussi bizarre que ça puisse paraître.
Ouais, non, totalement. Mais je comprends. C'est vrai que il y a un... Ah, le mot m'échappe, mais il y a un concept comme ça japonais qui consiste à justement arriver à sublimer ce qui est cassé. Et c'est tout un art.
Ah oui, oui. J'ai plus le nom non plus, mais je vois. Et oui, ouais. La comparaison est très juste, ouais.
Je trouve que c'est un peu ça, ouais, de prendre des fils d'or et de les utiliser pour recoller des morceaux brisés et en faire un objet d'art. C'est un peu ce que fait la poésie. Et j'ai lu un livre de Julien Duplain, si je prononce bien son nom de famille, que je découvre. Enfin, le livre s'appelle Le magasin des jouets cassés. Et dedans, il y a un personnage qui répète sans cesse que la vie est un poème. Et je trouve que c'est plutôt juste, et ça fait écho un peu à ce que tu dis, parce qu'il y a de tout aussi dans la vie, et il y a beaucoup de poètes qui souvent, ou même de romanciers tout court, hein, mais qui disent qu'ils s'inspirent de la vie, de ce qu'il y a de pire et de meilleur dedans, et c'est ça qui, au final, fait que parfois aussi le lecteur est tellement touché, parce qu'on parle de choses aussi magnifiques que terribles, mais on leur laisse une place. C'est peut-être ça qui fait que l'écriture c'est peut-être ce qui rend l'écriture parfois agréable, c'est d'arriver à peut-être à atténuer ce qui est horrible ou à le regarder avec un angle différent et puis d'arriver à rassembler des gens autour de ça autour de cette charogne et de se dire on la trouve quand même plutôt sympa.
Ouais, je n'aurais pas mieux dit.
Je crois que j'irai le relire après parce que de mémoire il m'avait un peu soulevé le cœur la première fois que j'avais lu.
Ouais, c'est pas impossible.
Ouais, juste pour le plaisir. Est-ce que tu as d'autres passions en dehors de l'écriture? Parfois, quand j'ai su avec des écrivains, bon, souvent on a parfois des passions aussi artistiques et parfois pas du tout, des choses qui n'ont rien à voir. Donc maintenant, je suis curieuse et je pose la question.
Alors artistiquement, j'ai pas tellement d'autres. J'ai pendant longtemps, j'ai peint. J'ai pris pendant bien 6-7 ans des cours de peinture. J'aimais vraiment, et peut-être qu'un jour je m'y remettrai. Mais aujourd'hui, à part la poésie, non, j'ai pas d'autres pratiques artistiques à proprement parler. Mais je lis beaucoup, et sinon j'aime apprendre. J'adore ça, apprendre sur tous les sujets. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que j'écris d'ailleurs, c'est parce que j'ai toujours cette envie de découverte, et l'écriture c'est aussi un peu ça, c'est de la découverte de soi, mais aussi du monde qui nous entoure,
ouais.
Et voilà ce que je fais à côté.
C'est déjà pas mal. Tu arrives à t'organiser? Enfin là tu disais que tu sortais d'une période longue sans écriture, mais c'était par question d'envie ou par faute de temps?
Alors, il y a un peu une question de temps aussi, parce que mes études m'ont pris pas mal de temps ces derniers mois. C'est pas une question d'envie, parce que je crois que j'avais envie, mais j'avais pas l'inspiration, tout simplement. Et ça venait pas.
Ouais. Heureusement qu'on ne fait pas encore ce que disait Stephen King dans son livre Écrire, où il disait qu'il allait tous les jours se mettre à sa table de bureau. Et qui n'en sortait pas tant qu'il n'avait pas écrit. Je crois que c'était 10 pages minimum, si je ne dis pas de bêtises, des choses comme ça. Quel que soit ce qu'il avait écrit sur ces 10 pages, hein, mais il ne partait pas tant que ce n'était pas le cas. Et
ben, c'est pas le genre de truc que je ferais, je crois.
Ah non, non, moi non plus. Rien que déjà, à l'heure actuelle, arriver à trouver 20 minutes pour écrire, ça relève du miracle. Alors,
je te comprends.
Se poser pour écrire 10 pages, ah mon Dieu. Mais bon, à ce qui paraît, c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc, chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Est-ce que tu écris ou tu manges quelque chose? Enfin, pardon, est-ce que tu bois ou est-ce que tu manges quelque chose quand tu écris?
C'est très rare. Enfin, je dirais même non. Parce que, non, au contraire, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec cette idée de solitude. J'essaye de pas troubler mes. Enfin, de pas être troublé avec quoi que ce soit qui pourrait venir interférer, en fait.
Ouais.
Genre, je fais en sorte que rien vienne troubler mes sens pour pour pas rompre cette espèce de d'état presque méditatif de la poésie.
Ouais, non, je comprends. Depuis que tu as écrit ce premier livre et maintenant qu'il y en a un deuxième qui va sortir, est-ce que tu as eu des réactions de la part de tes proches? Est-ce que tes proches savent d'ailleurs que tu écris? Parce que il y a des gens qui arrivent très bien à être écrivain et à cacher ça aux yeux du monde entier.
Eh ben, j'aurais aimé le cacher, je crois. Mais pour mon premier recueil, j'avais seulement 17 ans quand j'ai été accepté par la fameuse maison d'édition dont on parlait tout à l'heure. Donc, je devais faire signer le contrat à mes parents puisque j'étais mineur. Donc, j'ai dû leur en parler. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à l'apprendre. Et maintenant, ils sont tous au courant. Après, j'en parle pas trop. Je suis encore très pudique sur ça. Mais mes amis, on en parle très peu. Et d'ailleurs, la plupart de mes amis l'ont pas su par moi directement, mais en découvrant mon compte Instagram ou mon TikTok en tombant par hasard dessus. Mais c'est jamais directement venu de moi. J'ai jamais dit tiens, j'écris. Et voilà.
Tu m'étonnes. Ça doit être quand même marrant de tomber sur ton contenu ou sur une vidéo de toi quand on soupçonne pas du tout que tu aies ce type d'activité en parallèle.
Oui, des fois, ils sont très étonnés, en fait.
Tant que la réaction est plutôt positive.
Oui, ça reste positif.
C'est ça, c'est le principal. J'ai vu que tu avais partagé à un moment des playlists musicales à ta communauté. Ça venait d'où? C'était une idée que toi, tu as eue ou c'est quelqu'un dans ta communauté qui l'a suggéré?
Alors, j'avais fait une story où je demandais à des abonnés de m'envoyer des musiques parce que j'avais envie de découvrir de nouvelles choses, d'écouter, de varier un peu ce que j'écoutais. Et aussi, je me suis rendu compte que mes abonnés avaient aussi envie de découvrir de nouvelles choses, eux aussi. Donc, je leur ai proposé dans une story de me faire une liste, ceux qu'on avait envie, de me faire une petite liste des musiques qu'ils aimaient. Et j'ai compilé tout ça et j'en ai fait une playlist sur Spotify. Et après, je leur ai partagé. Même encore aujourd'hui, de temps en temps, je rajoute quelques sons quand ils m'en envoient. Je les rajoute et la playlist est disponible.
D'accord. C'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que... Enfin, moi, je sais que certaines musiques peuvent déclencher des phases d'écriture. Ça m'est déjà arrivé de faire quelque complètement autre chose, mais juste d'avoir de la musique dans les oreilles. Et au souvenir d'un certain son ou d'une certaine ambiance, ça déclenche parfois une émotion et ça déclenche une envie d'écrire. Donc je trouve ça pas mal que tu proposes aussi ça à tes auditeurs. Et je crois que ça se fait aussi pas mal maintenant de joindre au livre, via un QR code, une ambiance musicale.
Oui, oui, oui. Où il y en a aussi, il y a aussi de plus en plus de poètes et poétesses contemporains qui mettent tout simplement une liste de musique au début du livre ou à la fin, une petite les musiques qu'ils ont écoutées en fait en écrivant le livre. Et c'est assez sympa de faire ça, je trouve. Tu comprends vraiment l'état d'esprit dans lequel ça a été écrit.
Ouais, ça rajoute une manière de se rapprocher aussi un peu de l'auteur et de découvrir d'un autre aspect. Après, autant te dire que si moi je devais faire ça, je ne sais pas si je le ferais parce que, bon, je pense que maintenant il y a pas mal de gens qui le savent à force d'avoir répété, mais mettre du Taylor Swift dans mon QR code, j'apprends pas encore.
Je le ferai pas non plus, je crois.
J'assume pas encore le fait que ce soit grâce à certaines de ces chansons que j'ai pu écrire mon premier livre. Je mettrai plutôt Miyazaki. C'est déjà un peu plus classe.
Ça, c'est sympa aussi. Ouais.
Désolée, Taylor, si un jour tu écoutes ce podcast. C'est pas contre toi. Et aujourd'hui... Comment est-ce que tu t'organises par rapport à tes études? Parce que tout à l'heure, tu disais que ça prenait beaucoup de temps. Est-ce que tu te projettes un peu développer ces deux aspects de ta carrière un peu pro, à la fois terminer tes études et être avocat, j'imagine, et en même temps, continuer à écrire d'autres livres de poésie ou peut-être d'autres livres dans d'autres genres? Est-ce que c'est comme ça que tu vois les prochaines années ou pas du tout?
Je me projette pas tellement du point de vue de l'écriture. J'essaye déjà de voir un peu où vont mener mes études. Mais non, je sais que l'écriture fera, à mon avis, toujours plus ou moins partie de ma vie. Et j'espère continuer à sortir des choses dans les prochaines années de ma vie. Mais je suis persuadé de rien et je veux pas me forcer à quoi que ce soit. Je veux toujours que ça reste un plaisir d'écrire et que ça soit jamais un devoir ou quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, j'essaye d'articuler les deux. Quand j'ai du temps pour écrire, j'écris. Quand j'en ai l'envie, quand j'en ai l'inspiration. Si j'ai pas envie, que j'ai pas l'inspiration, je me force absolument pas. Et il y a des moments dans ma vie où je vais être à fond études et comme tout le monde, enfin comme tous les auteurs, douter de ce qu'on fait et donc se dire j'arrête complètement d'écrire, je me focalise que sur les études. Et à l'inverse, avoir des phases où je me dis à quoi ça sert de faire des études, moi ce qui me plaît vraiment c'est d'écrire, pourquoi j'arrête pas tout et j'écris pas juste des livres. Bon, ça je sais pourquoi, c'est parce que c'est comme tu le disais, il faut mettre du beurre dans les épinards et c'est compliqué avec le métier d'auteur, mais voilà.
Ok. Est-ce que tu penses qu'un jour tu te laisserais tenter par l'auto-édition ?
Je ne sais pas, ça me fait un peu peur, comme à beaucoup, je pense, parce que c'est beaucoup de travail. Je vois les gens qui m'entourent, dont tu fais partie, qui sont auto-édités, c'est vraiment énormément de taf, et je crois que ça me fait un peu peur. Mais de l'autre côté, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, il y a toute cette liberté qu'on a aussi autour, sur la couverture, le contenu, pouvoir tout aménager comme on le souhaite et faire un truc vraiment à notre image. Et donc ça, c'est vrai que c'est un côté vraiment attirant. Mais tant que j'aurai une maison d'édition qui voudra bien de moi, je pense que je sauterai pas le pas de m'auto-éditer.
Ouais. Ok. Un petit, très court portrait chinois. Un objet qui pourrait te résumer.
Un stylo.
C'est trop facile.
Non, ok, je vais prendre un autre truc. Un objet qui pourrait me résumer. Ça peut être quelque chose dans la nature ?
Oui.
Un arbre.
Pourquoi un arbre ?
Parce que pour la vitalité, pour j'adore quand je me promène en forêt, toucher les arbres comme pour m'assurer qu'ils soient vivants, qu'ils soient reliés à la terre. Mais finalement, en faisant ça, c'est à moi que je fais ça, c'est à moi que je veux vérifier mon ancrage au sol finalement. Et voilà, je vais lire l'arbre.
Non, je comprends. Je crois que c'est au Japon, j'avais entendu ça, qu'on organisait des sorties pour permettre aux gens d'aller faire des câlins aux arbres. Mm-hmm. C'est comme tu le dis, c'est plus pour nous que pour eux, parce que je pense qu'eux, ils s'en fichent.
Je pense aussi.
mais clairement, effectivement, ça a aussi des vertus thérapeutiques. Et puis, c'est recommandé, autant que faire se peut, de marcher pieds nus dans le sol, de se poser, de sentir un peu la terre sur soi. Et ça permet de faire baisser le stress. Donc, je comprends.
Tout à fait. Ouais.
Ce besoin de retourner à la nature et que tu puisses identifier un arbre. pour ou contre le fait de corner les pages d'un livre ?
Globalement, je vais dire contre, mais je le fais parfois. Alors, je dis contre, contre pour tout ce qui est beau livre. Par contre, dans certains livres, je l'ai fait. Alors, jamais des livres de poésie, on ne corne pas un livre de poésie. Mais pour des livres plus philosophiques ou plus politiques, je dois avouer que ça m'est arrivé de les corner. Mais le mieux est d'utiliser un marque-page quand même.
Ouais, je fais partie des gens qui n'abîment pas les livres, je les transporte dans une pochette express pour te dire.
Je te comprends.
Est-ce qu'il y a un livre que tu as relu plus de 2 ou 3 fois ?
Capitale de la douleur de Paul Éluard.
D'accord. Ça parle de quoi ? Je connais pas celui-là, tiens.
Ça parle d'amour, comme souvent Éluard, en fait. ça parle d'amour, ça parle de femmes. C'est très beau, c'est absolument magnifique.
Okay.
Il faut le lire.
Est-ce qu'à l'inverse, il y a un livre que tu aurais aimé ne jamais lire ?
Non. Non, pas comme ça. Non, j'ai rien qui me. Non, parce que même des livres que j'ai pas forcément aimés, ça me permet de cerner aussi ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je veux écrire, ce que je veux pas écrire. Donc, même les livres les moins bien ou qui auraient pu me déplaire ont été d'une certaine manière, m'ont apporté quelque chose d'une certaine manière.
Ok. Ta plus grande fierté, que ce soit en tant qu'écrivain ou pas du tout?
Ma plus grande fierté. J'ai du mal à être fier de moi-même, je crois. Je sais pas avoir sorti un livre à 17 ans.
Pas mal. C'est pas mal comme fierté, effectivement. Est-ce qu'il y a une époque à laquelle tu aurais aimé vivre?
Je suis très bien dans mon époque. Non, j'aurais bien aimé vivre à l'époque de mes parents, grandir dans les années 80, par là, 70-80. J'aime bien tout ce qui tourne, cette espèce de mood qu'il y avait, que ce soit au niveau musical. Il y avait moins d'écran, il n'y avait même pas d'écran d'ailleurs. Il y avait peut-être plus de. Après, c'est une image que j'en ai, hein, qui est peut-être totalement fausse, mais il y avait peut-être plus de communication, plus de. Je sais pas, la vie, j'ai l'impression que la vie était plus belle. Il y avait pas les problèmes écologiques qu'on a. Il y avait pas le Covid. Bon, il y avait d'autres choses, il y avait le sida, etc. Mais voilà.
Ouais, non, c'est sûr que le temps passe et on se rajoute de nouveaux challenges. Mais bon, c'est ce qui rend la vie, comme on disait tout à l'heure, si belle d'une certaine manière. Qu'est-ce qui est le plus inspirant en écriture selon toi? Une histoire d'amour qu'on vit ou une histoire d'amour qui est terminée? Je dis ça parce que certains de tes textes parlent souvent d'amour, c'est pour ça.
Une histoire d'amour qui est terminée. J'ai jamais écrit. J'ai déjà écrit sur une histoire d'amour en cours, mais pas pendant que je la vivais. J'ai toujours écrit tardivement. Et quand je suis vraiment dans une histoire d'amour en relation, j'écris pas, j'y arrive pas. J'écris très peu. C'est peut-être bizarre, c'est peut-être paradoxal. Mais j'écris pas et c'est souvent. D'ailleurs, c'est quand j'ai commencé à écrire, c'était après une grosse peine de cœur, un chagrin d'amour qu'on a comme quand on est adolescent, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et d'ailleurs, c'est globalement ce autour de quoi tourne mon premier livre.
Je crois qu'on est beaucoup comme ça. De certaine manière, on peut remercier tous nos ex
Qui
qui nous ont au moins servi à
nous ont
ça.
inspirés.
C'est ça, au moins servi à ça. Tant qu'ils reviennent pas réclamer les royalties à la fin, ça va. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Quentin?
Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter?
Ouais.
Que mon prochain livre sorte dans de bonnes conditions. Déjà qu'il voit le jour à un moment donné, mais ça doit le faire, mais qu'il sorte dans de bonnes conditions et qu'il soit lu.
Tu m'étonnes, j'ai envie de dire, c'est le minimum syndical. Après, on peut souhaiter autant de succès peut-être que certains autres auteurs qu'on connaît. Est-ce que tu aurais envie de nous lire un extrait, bon, peut-être pas du second livre, j'imagine, je ne sais pas si tu peux, mais peut-être de celui qui est déjà sorti?
Je vais lire celui-là du coup que j'avais posté en story Instagram. Je crois que j'en avais jamais fait de post, mais il était en story, donc je vais lire celui-là.
Ok.
Tu sais, j'aimerais écrire le plus beau de tous les poèmes. Pas pour la reconnaissance, la fierté ou ces autres fausses joies qui nous matraquent, mais pour toucher un peu à ta poésie. Mais hélas, en te rencontrant, j'ai su que jamais je ne pourrais écrire le plus beau des poèmes. Il existait déjà. Je venais de le rencontrer. Mais être avec toi, c'est prendre une petite place dans tes futurs souvenirs. Et ça, se faire co-auteur d'un bout de ton histoire, c'est un peu comme écrire le plus beau de tous les poèmes. Voilà.
Merci. Merci beaucoup, Fantin. Merci pour ton temps. Merci pour ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui.
Eh ben, merci à toi, Mauna, pour l'invitation. C'était un vrai plaisir de répondre à tes questions et d'échanger avec toi.
On te surveille pour la sortie du second ouvrage dont on vient d'avoir un joli bout d'extrait. Donc,
eh ben, merci.
N'hésitez pas à suivre Fantin sur ses réseaux. De toute façon, ce sera écrit dans la description du podcast. Et au plaisir de te accueillir à nouveau sur l'épisode. Sait-on jamais ?
Eh ben, avec plaisir.
À bientôt,
merci.
Fantin.
Merci beaucoup à toi.
En attendant le prochain épisode du podcast La Voix des mots, tu peux suivre les backstage de ma vie d'autrice sur mon compte Instagram Mauna Poésie ou en rejoignant ma newsletter L'Essentiel. J'y partage mes illustrations et d'autres contenus et actualités liés à ma vie d'autrice et de lectrice. Si tu as une question, n'hésite surtout pas. Au plaisir d'échanger peut-être avec toi. À très vite!